Le désert et le pays aride s'égailleront. La steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans l'Araba. Je retiens deux lectures pour ce matin, après la première que nous avons lue dans ce texte d'Ésaïe, lu en introduction dans le culte. Et je poursuis par des recommandations. C'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 à 10. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères et mes sœurs, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et puis cette situation un peu étrange dans l'évangile de Matthieu, où un questionnement a lieu à Jésus de la part de Jean-Baptiste, déroutant que l'itinéraire de ces deux hommes entraîne question de doute, question de manière d'agir et peut-être aussi question de préciser le rôle de Noël. Donc Matthieu 11. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et à leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, Jean le Baptiste, « Qu'êtes-vous allé contempler ?» au désert. Un roseau agité par le vent. Mais qui êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu somptueusement ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé faire ? Voir un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit : voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer un chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. Mais à qui comparerai-je cette génération ? C'est-à-dire les gens à qui il s'adresse, c'est-à-dire les gens que nous sommes aujourd'hui. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. » Dieu notre Père, ta parole est la vérité, que nous puissions, chacun, dans son chemin personnel, trouver dans l'Écriture une parole de toi, pour elle, pour lui. Amen. J'ai beaucoup hésité, chers amis, à retenir ce texte à partir de la question de Jean, Jean-Baptiste, qui est au fond d'une geôle, dans des conditions un peu lourdes à vivre. Et cette situation un peu extrême doit aussi contribuer à lui faire se poser un certain nombre de questions. Mais en ce matin de Noël, reste espoir et vie. Et je dois dire aussi, ayant passé plusieurs périodes de Noël, non pas en prison, mais dans les prisons, pour savoir qu'aussi tout te retrouvaille, toute possibilité de se poser des questions à propos de l'Évangile, de la vie de Dieu et de l'espérance sont d'une densité exceptionnelle. Donc, dans notre temps de Noël et notre effervescence, nous n'oublions pas et nous portons dans la prière ceux qui font l'expérience d'être à l'ombre. Mais dans cette période de Noël aussi, que l'on soit croyant ou non croyant, on est entraîné dans un mouvement, dans une effervescence générale qui est perceptible à peu près dans toutes les régions du monde. Il me semble qu'on s'emploie à vouloir en quelque sorte apprivoiser la lumière. Autrefois, et on se le rappelait ici même dans ce temple, de très humbles bougies étaient pincées aux branches des sapins. Et leur chaleur permettait à la bonne odeur de résine de se répandre alentour. C'était comme ça aussi au cœur de chaque maison. Noël au cœur des maisons. C'est bien sûr encore le cas aujourd'hui, souvent, bien sûr. Mais maintenant, plus que jamais, Noël et sa parure de lumière débordent largement l'intérieur de nos maisons. Et vous avez vu, la plupart d'entre vous, j'imagine, une profusion de guirlandes lumineuses bleutées accrochées aux platanes des Champs-Élysées, comme dans de multiples endroits d'ailleurs de nos villages ou de nos cités. Alors ma question, tout ce préambule sur la lumière et la volonté d'apprivoiser cette lumière, me pose la question, que signifient ces lumières pour les passants de la rue ou pour nous-mêmes? Apprivoiser la lumière, signifier Noël, la Noël des minuits chrétiens ou la célébration de l'anniversaire, ou tout simplement à côté l'occasion rêvée de faire la fête sans pour autant en définir une raison essentielle. Autant de passants interrogés, autant de réponses différentes. Et je passe bien évidemment sur ceux pour qui les fêtes sont plutôt des rappels douloureux du temps qui fuit. Mais pourtant, la ville autour de nous, je parlais d'effervescence, la ville devient à Noël un peu comme la caravane des mages d'Orient. Elle est scintillante de tout l'or du monde. Une situation qui ravit les uns et qui parfois choque les autres. Eh bien moi, j'ai envie de dire que nous pourrions penser tout simplement que cette effervescence, ce scintillement exceptionnel ne fait que témoigner de la démesure et avec démesure de l'amour de Dieu. Un amour qui survient, qui se montre, qui se donne, qui appelle les bergers, qui instruit les mages. Un amour qui, paradoxalement, se cache sous les dehors de la simplicité, de l'indigence, dans la crèche. Et pourtant, un amour qui met en branle le monde entier à l'écoute d'une nouvelle qui dit que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message de base. Ainsi, j'ai envie de vous proposer que les lumières de la fête sont là pour essayer, pour tenter de nous dire l'indicible, et que cette démesure de lumière, paradoxalement, voile ou même parfois cache ce qu'elle suppose montrer. Est-ce que la démesure a quelque chose à voir avec l'Évangile, comme je l'affirmais tout à l'heure? Et si oui, comment trouver une réponse dans l'Écriture? Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11, « Le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre. » Voilà encore une prophétie qui nous annonce là le sens des promesses qu'on dit réaliser à Noël. Nous sommes, par de tels discours, dans la démesure totale. Il semble même que le jardin d'Éden est en train de refleurir sur nos rives avec une prophétie comme celle-là. Et prophétiquement, nous voilà devant des visions de paradis. Alors Noël, eh bien oui, c'est cette lumière démesurée du don de Dieu parmi les hommes. Rien d'étonnant que l'Église primitive, à ses débuts, ait retenu dans les annonces prophétiques que désormais le royaume de Dieu s'était approché de telle manière que le changement radical de toute chose était un véritable acquis. Noël fait du neuf, Noël fait du nouveau tout neuf, à condition que chacun s'avance, réveillé par les voix célestes, pour contempler, pour adorer la promesse réalisée, c'est-à-dire désormais le Messie présent, le Christ présent, l'action de Dieu véritablement à l'œuvre dans cette communication du don du Fils de Dieu. Donc, sur le principe, frères et sœurs, il n'y a plus aucune espèce de raison de douter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, le royaume de Dieu est arrivé. Mais alors, comment comprendre que lorsque l'envoyé du Père accomplit son ministère sur la terre, son précurseur, son messager, son baptiseur, Jean le Baptiste, celui qui affirmait en voyant Jésus s'approcher de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », comment imaginer qu'il en soit au fond de sa prison à se poser encore des questions, comme il nous ressemble, Jean-Baptiste. Les prophéties, y compris celle de Malachie, c'est un des petits prophètes, le dernier de l'Ancien Testament. Et comme je l'ai dit, l'Église voyait dans ses prophéties une attribution de paroles, de promesses attribuées à Jésus lui-même. « Voici, j'envoie mon messager devant toi. » Ce n'est même ici plus Dieu que le messager précède, annonce. Mais c'est précisément Jésus considéré comme le Messie, le Christ. Et donc la venue de Jésus, et c'est le temps de se le redire à Noël, paraît pour l'Église aussi importante que celle de Dieu lui-même, puisque c'est par lui que Dieu passe pour nous parler, d'où l'apparition de ce précurseur. Alors, comment comprendre que ce précurseur, dont l'attitude est saluée par Jésus lui-même, comment comprendre qu'il exprime le doute terrible par la question qu'il confie à ses disciples? Vous savez, on est dans une époque où, on le voit avec l'apôtre Paul aussi, le prisonnier, le détenu, n'est pas dans une situation aussi opaque avec l'extérieur que maintenant. Il a des visites régulières et donc Jean a profité de cela pour envoyer ses disciples questionner Jésus, alors que lui est donc en privation de liberté et sous la menace de ce que vous savez, c'est-à-dire un jugement radical qui sera sa décapitation. Donc comment comprendre que ce précurseur dont l'attitude est célébrée, saluée par Jésus lui-même, comment comprendre ce doute terrible qu'il exprime par cette question confiée à ses disciples? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais mes frères et mes sœurs, c'est peut-être ça la question essentielle dans l'Évangile. Et ça aussi, sans doute, un rapport avec les lumières aveuglantes de Noël. Consciemment ou non, chacun voudrait bien que la vie paradisiaque, que la vie idéale, soit d'ores et déjà installée là, sur la terre, y compris dans nos vies personnelles, que nos chemins soient sans embûches. Nos contemporains prononcent une question analogue lorsqu'ils s'interrogent sur la réalité de Noël. Comment, si cette histoire est véritable, trouvons-nous au près comme au loin autant de violence, autant de détresse, autant de guerre, autant de souffrance, autant d'incompréhension? Mais c'est la question qu'on pose à tous les chrétiens qui font la fête à Noël. Comment cela est-il compatible? Comment peut-on affirmer l'amour de Dieu pour le monde alors que nous ne comprenons plus le monde, ni d'où il vient, ni où il va. Et ce que Jésus fait répondre à Jean-Baptiste n'a pas l'air de le rassurer beaucoup. C'est une réponse assez décevante. Il renvoie Jean et ses disciples à ses œuvres, les œuvres du Christ, les guérisons, les remises en route, la bonne nouvelle, la prédication de la nouvelle annoncée, mais tout ça, Jean le savait déjà. C'est peut-être l'interprétation des œuvres qui demeure simplement en suspens. Comment se fait-il qu'une année de grâce soit annoncée, une année de bienveillance, c'est dans Ésaïe chapitre 61, et que cette lumière, toujours cette lumière dont nous avons parlé, comment se fait-il que cette lumière ne soit pas immédiatement saisie par la foi, par tous, d'un coup ? Jésus renvoie bien à des signes que toute l'Écriture reconnaît comme des signes messianiques. Son action, son œuvre, sa prédication prouvent bien qu'il se passe quelque chose. Il y a bien des temps nouveaux annoncés. Mais pourtant, il le fait si discrètement, presque secrètement, sans démonstration de puissance, que les signes mêmes peuvent devenir autant des occasions de douter que de croire. Oui, des choses se sont passées, des miracles, si nous le voulons, qui sont considérés comme des signes, mais tellement secrètement, tellement sans la puissance attendue d'un Messie qui va nous délivrer de l'occupant, du mal, globalement, que Jean-Baptiste en est à sa fameuse question. Ainsi, même le grand Jean-Baptiste, modèle de foi, modèle de témoignage, modèle de modestie aussi, se demande, alors qu'il est au fond de sa prison et qu'il est privé de liberté, si les choses, en général, vont changer radicalement, de manière visible et lumineuse, comme les guirlandes qui essaient de montrer un monde autre, différent, plus beau. Et alors, la personne de Jésus, sa faible condition humaine qu'il entend assumer jusqu'au bout, sont et seront, et pour nous encore, et pour moi ce matin toujours, un piège. Son choix de vie, son immense exemple de cette humanité qu'il assume avec ses limites, avec ses fragilités, cela va être l'attitude constante de Jésus. Jésus sait bien que sa réponse à Jean-Baptiste n'est pas satisfaisante. Il sait sans doute qu'elle augmentera sa perplexité et que ce sera une raison que tous invoqueront, y compris aujourd'hui, même dans l'Église. L'attitude de Jésus, tous son témoignage, toute sa vie, sont toujours une raison d'en attendre un autre. C'est un scandale que Jean le Baptiste, comme Jésus, savent bien à ce moment-là qu'ils cheminent l'un et l'autre vers la mort, comme si de tout ce qui avait été promis, rien ne s'est réellement passé. Et pourtant, frères et sœurs, leur mort à tous les deux sont le corollaire des actes de puissance qui ont libéré beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants depuis leur annonce et leur œuvre. Car le royaume de Dieu vient sans apparence, mais il vient aussi, et nous le voulons ainsi, avec une sainte énergie qui fait s'approcher le royaume lorsqu'il est découvert en Christ. Jésus dit explicitement qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de nouveaux avertissements sur le Messie. Dieu a tout donné en Christ. Si l'on ne comprend pas Jean-Baptiste, on ne comprend pas non plus Jésus. Et avec Jean, ce que les hommes sont invités à faire, c'est à se repentir. Vous vous en souvenez, c'était sa tâche première et sa prédication. Il faut vouloir du neuf dans sa vie. Il faut retrouver Dieu et son pardon. Jean-Baptiste l'a annoncé clairement. Et avec Jésus et à Noël, il faudrait aussi se réjouir, puisqu'il inaugure le règne de la grâce et de la gloire. Il l'inaugure. Le temps nouveau que nous pouvons vivre par la foi, c'est l'esprit des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est la première étape de la joie. Noël, véritable Noël, tu es résumé tout entier dans la parabole si particulière qui forcément nous oblige à entrer dans la fête et dans la lumière joyeuse de l'amour. Autrefois, pour ceux qui ont à peu près mon âge, ils s'en souviennent, il y a un curé, jeune à l'époque, l'abbé Duval. Il enregistrait des disques et il avait mis cette parabole en musique. Les contemporains de Jésus étaient comparés, comme nous l'avons lu, à des enfants assis sur des places publiques qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Mes amis, il faut entrer dans la fête, c'est ça, Noël.